Bonjour à tous et bienvenue à Champ contre Champ, émission présentée par l'association Profil qui vous propose son regard mensuel sur le cinéma. Emmanuel qui sera présent, émission qui sera présentée par moi-même Jean Lot et j'aurai solidement accompagné, du moins j'espère, par Dominique Bénard. Bonjour Dominique.
Bonjour Jean.
Par Marie-Jeanne Campana. Bonjour.
Bonjour tout le monde.
Et par Jacques Champeau. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Bon, on est en novembre, hein. Les grands crus primés à Cannes ont sans doute été déjà débouchés pour la plupart, mais il reste encore d'excellentes bouteilles sélectionnées par de grandes caves. La preuve en est les trois films qu'on vous présente aujourd'hui. Le premier nous vient d'Algérie. Il faisait partie de la sélection Un certain regard. Il s'appelle En attendant les hirondelles et il est signé Karim Massoui. Gardez son nom, vous en entendrez parler encore. Le second est réalisé par un grand nom du cinéma américain, l'américain Todd Haynes. Il était dans la sélection officielle du Festival de Cannes. Il s'appelle Le Musée des Merveilles. Quant au troisième, il est français. Il a été vu à la Mostra de Venise. Il s'appelle Marvin ou La Belle Éducation. Et il a pour auteur Anne Fontaine, une réalisatrice qui a déjà une œuvre importante à son actif. Nous allons commencer par En attendant les hirondelles, premier long métrage de Karim Massoui. Karim Massoui a 41 ans. Il fait partie de cette nouvelle génération de cinéastes algériens comme Tariq Taghia, Merzek Alouache ou Malek Bensmaïl qui, 15 ans après la décennie noire, ne cessent de pointer les tensions qui déchirent leur pays. Il a commencé par quelques métrages et en 2015, il réalise un petit bijou de 47 minutes qui s'appelle « Les jours d'avant » qui se passe dans une Algérie des années 90 où une violence sourde commence à se faire sentir. Ce qui est remarquable dans ce film, c'est la façon dont Karim Massoui, sans jamais réellement donner un visage à cette peur qui étreint tout le monde, en décrit les effets de dislocation de la vie quotidienne. Alors Dominique, est-ce que, en attendant les hirondelles, justifie les espoirs qu'avait fait naître Karim Massoui avec les jours d'avant ?
Eh bien, complètement, Jean. C'est un film attachant, un film rare, car il est difficile aujourd'hui de produire et de tourner en Algérie, même si les choses bougent un peu. Ce road movie nous mène des chantiers plus ou moins abandonnés de la banlieue d'Alger jusque dans les montagnes ocres du sud de l'Algérie. Et Karim Massoui nous raconte avec une grande maîtrise les tensions qui traversent aujourd'hui son pays entre tradition et modernité, ville et campagne, idéaux et compromis. Rien n'est gratuit, chaque détail compte et a un sens et c'est magnifique d'émotion, de pudeur, de subtilité et de richesse.
Alors, à travers le biais de quelle fiction Karim Massoui parvient-il à donner sa vision de l'Algérie ?
Eh bien, Karim Massoui nous invite à suivre trois histoires, trois personnages à un tournant de leur vie, dont les idéaux se heurtent à leur immobilisme et aux contraintes de la société. Mourad est un entrepreneur vieillissant. Il sent que sa vie privée et professionnelle lui échappe et fuit au lieu de porter aide à un inconnu tabassé devant lui par peur des complications. Aïcha est une jeune femme qui accepte de se marier avec celui que ses parents ont choisi et non avec celui qu'elle aime. Et elle s'offre un dernier moment de liberté. Daman est un médecin d'âge mûr à la veille de son mariage, arrangé lui aussi. Et une femme surgit de son passé et sollicite son aide pour son fils handicapé, né à la suite d'un viol dont Daman a été le témoin impuissant pendant la guerre civile. Trois histoires, mais un seul film. Tant le passage d'une histoire à l'autre est fluide et bien amené par le relais d'un personnage ou d'un lieu.
En somme, à travers ces histoires, qu'est-ce que Karim Massoui veut nous dire de l'Algérie ?
Eh bien, il me semble qu'il veut nous faire sentir la complexité du pays et le poids dans la vie de tous des contraintes, des non-dits du passé. Le patriarcat est omniprésent. Les deux mariages présentés sont des mariages arrangés. Les jeunes ont du mal à trouver un travail, la corruption est sensible et les chantiers à l'arrêt symbolisent l'économie du pays. Les dialogues aussi sont très signifiants. À part l'entrepreneur et sa femme divorcés, qui parlent presque librement de la paralysie du pays, personne ne se parle vraiment. Pas de dialogue entre les parents et les enfants, juste de l'obéissance, des non-dits. Peu de dialogue entre amoureux et de terribles silences. Et un long monologue de la femme qui raconte son viol.
Oui, on voit que ce ne sont pas de minces sujets. Alors, à force d'être grave, est-ce que tout ça n'est pas un peu lourd ?
Eh bien non, et le miracle est là, je dirais. Le cinéaste traite tous ces sujets avec délicatesse, à travers la vie quotidienne, les paysages, les langues, avec un profond respect de tous ses personnages. Il est aidé par un jeu parfait des acteurs. Et lorsque les mots ne peuvent plus rien, la musique et la danse surgissent comme une respiration, une libération pour faire éclater ce qui ne peut pas être dit et épanouir les désirs et les corps. On peut citer entre autres la merveilleuse scène de séduction et d'amour sur le chant Yasina, titre de Raina Rai, sans un mot. Et aussi un dynamique numéro de comédie musicale dans le désert où les jeunes musiciens et danseurs mettent le feu avec un dynamisme et une joie tout à fait communicative. Bien sûr, il y a aussi la cantate de Jean-Sébastien Bach, beaucoup plus, je ne dirais pas funèbre, mais nostalgique, et qui évoque la requête de Siméon au Seigneur, « De toi, Seigneur, je suis comblé ». En fait, on sent que le réalisateur aime profondément son pays et les gens qui l'habitent. Et ce film est tout de vie et d'attente mêlée. La fin du film est ouverte. Elle nous emmène à la suite d'un quatrième personnage dont nous espérons qu'il le rencontrera, les hirondelles.
Marie-Jeanne, est-ce que toi aussi tu as été séduite par ces hirondelles et par leur attente dont on peut espérer que ce ne sera pas l'arlésienne?
Oui, oui, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce film que j'ai trouvé habile, intelligent et le réalisateur visiblement veut nous faire aimer son Algérie, l'Algérie moderne avec les affres de son passé, mais quand même aussi il nous montre une certaine modernité. Il y a quand même une évolution en germe que l'on sent parfaitement à travers ces personnages. Alors, je me ferai l'avocat du diable, parce que là, je suis un peu forcée de le faire dans la mesure où j'ai trouvé tout de même que un jour, tu as dit, Jean, il soustrait, il n'ajoute pas. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Il y a des scènes qui m'ont paru un peu longues, un peu inutiles, comme par exemple tous ces grands plans dans la voiture, où on les voit conduire longuement.
C'est le côté Antonioni du film, ça.
Oui, mais bon, ça enlève un peu du dynamisme au film et qui aurait mérité justement d'être un peu plus raccourci avec un montage plus cut.
Enfin, c'est mon avis. Est-ce que toi, tu es aussi gêné par ça?
Petit bémol.
Non, je ne suis pas gêné par ça. Je suis un peu gêné, mais comme tous les films qui sont construits de la même manière, c'est-à-dire par cet enchaînement de trois histoires qui, quand même, se raccordent un peu artificiellement. Et on est toujours un peu frustré parce que quand on commence à s'attacher à un personnage, il disparaît au profit d'une autre histoire. Donc, ça, c'est un genre qui est, à mon sens, un peu difficile. Enfin, c'est un petit peu comme les nouvelles. Ceci étant, ce film m'a beaucoup intéressé pour deux raisons. D'une part, c'est effectivement une excellente manière de nous plonger dans l'Algérie d'aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est intéressant parce qu'on ne voit pas tant de films que ça actuellement. J'en signale un autre qui va sortir en décembre et que j'ai vu à la Mostra de Venise qui s'appelle Les Bienheureux, qui est aussi sur l'Algérie aujourd'hui et sur deux générations et qui est très intéressant. Je vous le recommande à l'occasion. Et puis la deuxième chose qui m'a intéressé, c'est l'usage qu'il fait des paysages, des lieux. Hein, aussi bien la première partie dans ces espèces de chantiers, d'immeubles inachevés, on ne sait pas très bien s'ils ont été abandonnés ou s'ils sont encore en construction, qui donnent une image un peu glauque de cette ville, qu'à l'inverse, ces images un peu bucoliques qui accompagnent l'amour des deux jeunes.
Effectivement, tous les paysages sont magnifiques.
J'ai trouvé ça très formidable. Intéressant. Au-delà de l'histoire qui est intéressante, je trouve que l'usage qu'il fait des paysages, c'est un bon cinéaste.
Mais cet usage des paysages, ça fait partie de la lenteur que tu
Non,
film,
non, parce que là, il nous montre l'Algérie dans toute sa diversité. Le milieu des bourgeois, qui sont très bien meublés, qui habitent très bien, et puis ce quartier complètement déshérité, où il y a ces immeubles vides, et on ne sait pas d'où ça vient, comment ça a poussé, et ce que ça va devenir. Et puis la campagne, quand même, qui est très, très pauvre. Enfin, la campagne rurale, avec beaucoup de pauvreté. Mais non, ça fait partie du film. Et puis, ça, dans sa diversité, avec... Les paysages des Aurès qui sont de sublimes, sublimes.
Oui, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec cette impression de lenteur et de manque que tu as. Je trouve qu'au contraire, il a une façon de faire sentir les choses sans les montrer, que je trouve tout à fait remarquable. Ouais, moi, il y a deux scènes là-dedans que j'ai énormément aimées, dans cette façon de faire ressentir les choses sans les montrer. Il y a la scène d'abord du bal, enfin, oui. les deux jeunes là, qui se trouvent, se trouvent dans cet hôtel désert, où elle commence à danser, lui la regarde, et ensuite il la rejoint. Je trouve que tout est dit.
C'est super.
Et oui, puis le lieu est intéressant aussi.
Le lieu est intéressant. Et alors, juste à l'opposé, il y a un lieu qui apparemment n'est absolument pas intéressant, que je trouve passionnant. C'est à la fin, dans le troisième épisode, lorsque le marié va aux toilettes.
Alors là, j'ai trouvé que c'était très long. Je m'attendais à voir surgir quelqu'un, et non, il est simplement allé aux toilettes et se lave les mains.
Oui, mais justement, pour moi, ce plan, il reste trop longtemps aux toilettes, et le réalisateur le fait bien comprendre. Et pourquoi, pour moi, il reste aux toilettes, c'est parce que aux toilettes, il va pas pour satisfaire un besoin, il va pour réfléchir, pour prendre une décision. Oui, et on le ressort, j'ose pas dire, mais il est soulagé d'avoir pris sa décision.
Mais quelle décision?
Par rapport à la femme. Oui.
Oui,
et
oui.
C'est là,
il y a peut-être un autre moyen de montrer qu'on réfléchit, je ne sais pas. Non, ça, cette scène, justement, j'ai oublié de la citer, mais elle m'a paru horriblement longue et on attend.
Il faut oser.
On attend qu'il sorte des toilettes, qu'est-ce qui va se passer.
Mettre une caméra face une porte de WC et d'attendre.
Oui,
voilà.
Ça, c'est osé. C'est osé. Je te l'accorde.
Sinon, en fait, toi, tu disais que tu trouvais que l'enchaînement des histoires était un peu classique.
Oui,
quoi.
Mais c'est toujours dans ces cas-là. Quoi. Je veux dire, il faut trouver un raccord. Le raccord se fait plutôt mieux d'ailleurs que dans certains films, mais ça reste quand même très très artificiel.
Ça n'en fait pas un film à sketch pour autant. Il n'y a pas une histoire, une deuxième histoire, une troisième histoire.
Ça n'en fait pas un film à sketch parce qu'il y a une certaine continuité dans l'atmosphère.
C'est que c'est très habile.
Mais c'est quand même un film à sketch dans la mesure où c'est bien trois histoires qui n'ont rien à voir.
Je ne crois pas qu'il tourne tellement peu de films long métrage qu'il a plein de choses à dire dans son premier film,
peut-être.
Et du coup, il fait trois histoires.
Non, mais je ne critique pas. Je dis simplement que ce genre est un genre un peu difficile parce que le spectateur en sort toujours un peu frustré. Quoi. Il a vu beaucoup de choses, mais il est resté sur sa fin parce qu'il y avait des personnages qui l'intéressaient.
La frustration maximale, c'est le quatrième personnage. Dans la rue, on se dit qu'est-ce qui va se passer. Et blanc, l'écran noir, c'est fini.
En fait, on a affaire à une espèce de course de rôle et chacun se repasse.
C'est des courses de relais, tout à fait.
Et ça se termine sur le dernier coureur qui part. Voilà, on va continuer avec le Musée des Merveilles du réalisateur américain Todd Haynes. Enfin, je dis américain avec certaines hésitations, non pas qu'il ne soit pas américain, non seulement il l'est effectivement, mais de plus, dans tous ses films depuis 30 ans, il se livre à une critique de son pays et en dénonce les mécanismes assujettissants. Toutefois, son cinéma est tellement personnel, exigeant, que ça rend pour moi difficile le rattachement à une quelconque étiquette. Enfin, pour donner deux exemples, dans Loin du Paradis, en 2002, il donnait l'image d'une société bisounours, dont la tolérance topée quand naissaient des relations homosexuelles ou interraciales. Dans Carole, en 2015, il dénonce le rejet de l'homosexualité féminine et de l'amour entre classes sociales différentes, tout cela étant à chaque fois servi par une mise en scène éblouissante. Jacques, est-ce que l'on retrouve dans le Musée des Merveilles aussi bien ce type d'inspiration sociétale que cette recherche formelle?
Eh bien, oui et non. Alors, on retrouve tout à fait la mise en scène extrêmement travaillée de ses films précédents, ainsi que le souci de reconstituer très intelligemment une époque. Mais ici, c'est sur une trame d'histoire qui est un récit pour enfants et non une analyse sociale pour adultes, comme par exemple son dernier film, Carole. Le film suit de manière d'ailleurs très fidèle le roman pour enfants Wonderstruck de Brian Selznick, qui est paru en 2011. Je le signale parce que Brian Selznick avait aussi écrit auparavant L'invention d'Hugo Cabret qui a été tourné par Scorsese. Donc c'est un auteur réputé pour enfants. Et Selznick a écrit aussi le scénario du film, donc qui est très proche du livre. Alors, parlons d'abord de l'histoire. Je devrais d'ailleurs dire deux histoires puisque le film est construit sur deux récits qui s'entrelacent continuellement avant de se rejoindre à la fin. L'un met en scène un jeune garçon d'une douzaine d'années, Ben, qui vit au bord d'un lac dans le Minnesota en 1977. La date est importante. Il ne connaît rien de son père et sa mère meurt dans un accident de voiture peu avant le début du film. Il est recueilli par sa tante, il cherche des souvenirs dans son ancienne maison quand il est frappé par la foudre et le traumatisme le rend sourd. Il s'échappe alors de l'hôpital et part à New York à la recherche de son père, toujours sourd bien sûr, et avec pour toute piste un très mince indice.
Et en parallèle, nous suivons un autre enfant de New York.
Et alors effectivement, l'autre histoire se passe entièrement à New York, elle, mais en 1927, donc exactement 50 ans avant, et met en scène une jeune fille du même âge, Rose, sourde de naissance.
Elle vit dans une famille riche, mais ses parents ne s'occupent pas d'elle, sont d'ailleurs sans doute divorcés. Sa mère est une grande actrice qui ne pense qu'à sa carrière, et son père, c'est pas très bien, un homme d'affaires peut-être, est autoritaire et un peu borné. Mal aimée, elle s'enfuit de chez elle et part dans New York à la recherche de sa mère, puis de son frère, en fait le seul être qui s'intéresse vraiment à elle. Et donc dans les deux cas, on a un thème classique des histoires enfantines, qui est l'orphelin ou l'enfant délaissé qui recherche un peu d'amour. Thème auquel s'ajoute celui de la surdité et de la difficulté de communiquer, qui est, à mon avis, très bien traité, et puis celui des musées, ou plus précisément d'ailleurs des cabinets de curiosité, qui évoquent les grottes au trésor des contes pour enfants. Donc on est dans des thèmes très pour enfants.
Et le film va faire un va-et-vient incessant entre ces deux histoires.
Oui, alors c'est là que Todd Haynes fait montre d'une exceptionnelle virtuosité. Ce qui se passe en 1927, juste au moment où le cinéma bascule du muet au parlant, est filmé dans un superbe noir et blanc, mais aussi avec une mise en scène, des cadrages, des jeux d'acteurs qui rappellent les grands films de l'époque. Et au contraire, pour le New York de Ben, en 77, on se trouve plongé dans les couleurs, la musique, la faune de Taxi Driver, le grand film de Scorsese qui date exactement de cette époque. Donc on a une reconstitution assez forte. Alors pour un animateur de cinéma, évidemment, on se régale de ces connotations. Mais ajoutons encore que le passage d'une époque à l'autre se fait le plus souvent dans ce que j'appellerais, le terme sans doute pas correct, un fondu enchaîné contextuel. C'est-à-dire qu'un thème ou un mot ou une image évoquée à la fin d'une scène de Ben va être repris au début de la scène suivante de Rose. C'est très subtil et remarquablement fait.
Mais oui, mais est-ce que ce n'est pas justement trop sophistiqué pour un film pour enfants ?
Alors ça, c'est la grande question pour ce film. Todd Haynes n'a-t-il pas été trop ambitieux ? Et est-ce que de jeunes adolescents ne vont pas être un peu rebutés par cette mise en scène trop savante ? Et à l'inverse, est-ce que les adultes ne vont pas trouver l'histoire bièvre ? Alors, si vous avez gardé votre âme d'enfant, ou si vos enfants ou petits-enfants sont un peu cinéphiles, courez voir ce film, mais sachez que c'est effectivement beaucoup plus compliqué qu'à Walt Disney.
Oui, et Dominique, pour reprendre ce que dit notre ami Jacques, as-tu conservé ton âme d'enfant et emmèneras-tu des enfants voir ce film ?
Eh bien, oh bah oui, je crois que pour faire une expérience, pour voir si vraiment 2 heures, c'est pas trop long pour un enfant, ça me paraît très très long. Et puis pour voir si l'histoire les accroche, parce que c'est très compliqué. Enfin, moi, j'ai trouvé assez compliqué à suivre ce va-et-vient incessant et très rapide entre les deux époques qui sont effectivement admirablement reconstituées. Hein. C'est splendide, son travail. Mais moi, ça plombe le film. Enfin, il me semble de passer de l'un à l'autre comme ça. Moi, j'ai bien aimé la dernière partie. Mais je comprends qu'on puisse la trouver enfantine, mais là,
Rose, oui.
Là, j'ai gardé mon âme d'enfant, moi, ça ne me gêne
bien.
Pas
tu
du
as,
tout.
Tu as sauvé quelque chose.
Voilà,
quand même.
J'ai sauvé quelque chose.
Et toi, Marie-Jeanne,
Oui, écoute, moi, je dirais que Todd Haynes est victime de Todd Haynes. C'est-à-dire qu'il nous avait présenté un Carol éblouissant, magnifique. Et du coup, on attendait un film du même niveau. Et j'avoue que j'ai été incontestablement déçue, parce que la comparaison lui est très défavorable. Enfin, très défavorable à ce dernier film.
Moi, je dirais écoute, par rapport aux autres films, et pas que par rapport à Carol, d'ailleurs.
Mais, oui. Mais, enfin, j'ai pas du tout éprouvé la même fascination que pour Carol. Alors, on retrouve bien la patte du réalisateur. Hein. Il y a une reconstitution admirable de l'atmosphère, des images des différentes époques, ça, incontestablement.
Le jeu des acteurs aussi est fascinant.
Des acteurs, Non, ça, c'est admirablement fait. Il passe d'une époque à une autre, du noir au blanc, et de façon tout à fait remarquable, virtuose même, et saisissante. Mais est-ce que ce passage du noir et blanc complexe et constant exige quand même une grande attention du spectateur et risque de le
perdre un peu, finalement.
Bah, de le perdre et de le lasser. Ouais. Et puis, surtout, alors, là, j'ai... Écoute, j'ai perdu définitivement mon âme d'enfant. J'ai trouvé notamment la dernière scène, mais d'une mièvrerie, mais confondante, quand ils sont là tous les
tu
trois.
Tu as vraiment perdu ton âme d'enfant, là,
maintenant. Définitivement. C'est dommage, parce qu'on a là les grandes qualités du cinéaste. Ouais. Je ne dirais pas que c'est un mauvais film, mais je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un bon film. Ouais. Mais un film à ne pas négliger quand même.
Moi, pour prendre un petit peu la question, question que je posais à Dominique. Non, je n'emmènerai certainement pas voir, voir ce film. Non, non, oui. Je ne suis pas un bourreau d'enfants.
Voilà, il ne faut pas les martyriser quand
mais
même.
Mais non, mais il faut les éduquer, les enfants. Non, là, vous les prenez. Je veux dire, est-ce que vous voyez régulièrement des histoires de sorciers, des Harry Potter, ou des livres, des films, par exemple, sur la guerre des étoiles?
Oh oui, enfin, j'étais entraîné dans Harry Potter par ma petite fille.
C'est beaucoup plus compliqué.
C'est beaucoup
plus compliqué.
C'est
moins compliqué, c'est moins sophistiqué comme cinéma, mais c'est beaucoup plus compliqué comme histoire.
Mais là, il n'y a pas d'histoire.
Oui. Ah ben, il y a une histoire extrêmement simple, une histoire de conte d'enfants, en fait.
Oui, mais dans les films de Harry Potter et tout, tu as le temps de t'attacher à un personnage. Ouais, tout à fait. Tandis que là, tu n'as pas le temps.
Ah ben si, on a quand même de bonnes heures.
Ah oui, de bonnes heures, mais t'es endormi avant.
Et puis, c'est vraiment lassant.
C'est une sorte de deux enfants qui marchent indéfiniment, il ne leur arrive rien.
Non,
pour les enfants, justement, on a besoin de
l'attachement. Je crois que la difficulté est en fait que l'histoire pour enfants est une histoire pour jeunes enfants. Ouais. Et que plutôt sur un style de cinéma qui nécessiterait des adolescents. Or, les adolescents, ils sont intéressés par les types de films que je voyais et pas par ça. Donc, c'est vrai que je pense que ce film, il colle mal, quoi. Mais quel beau film sur le plan cinéma.
Ah, tu penses pas que
je suis d'accord.
C'est un exercice de style extraordinaire qui est sans doute mal adapté au sujet qu'il a choisi.
Bon, je suis d'accord avec vous. Ce titre, mais c'est merveilleux, ça va très bien, parce qu'on est... Si on fait abstraction de toute affectivité, de toute émotion... c'est un film merveilleux, c'est un film sur le museau des merveilles. Il est merveilleusement construit. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de scénario, qu'on n'arrive pas vraiment
à... Le scénario est trop simple par rapport au film, enfin, je suis d'accord. Mais c'est... Et surtout, effectivement, quand on le compare à Carole était un scénario qui nous touchait, nous, en tant qu'adultes.
Oui, oui.
L'histoire nous touchait, nous intéressait. Mais on est dans le même genre de sophistication de cinéma, simplement adapté à une histoire différente.
Moi, je pense que c'est... Abandonnant le côté enfant, c'est vraiment pas un film pour enfants. Côté adulte, c'est un film que je reverrai très volontiers. Oui. Parce que je pense qu'il a une richesse de travail qui est remarquable dans tous les échos.
Moi, je l'avais vu à Cannes et je l'ai revu récemment là, pour l'émission. Et je dois dire que je ne me suis pas du tout ennuyé à le revoir. Parce qu'au contraire, on découvre des tas de choses.
Ah oui, je pense bien. Oui.
Ouais.
Pas sur l'histoire, bien sûr. L'histoire,
je n'irai pas m'affliger de le revoir.
Et pourtant, si, je fais peut-être faire l'effort. Moi, je pense avoir fait l'effort de le revoir.
Tu es masochiste, là.
Non, j'ai de remords un peu, quand même. Bien, ben, nous allons faire une petite pause musicale, et ensuite, nous continuerons. Eh bien, nous allons reprendre avec Marvin ou la belle éducation, un film de la réalisatrice française Anne Fontaine. Anne Fontaine a 58 ans, et derrière elle 16 longs-métrages, le premier datant de 1992. Bon, je sais bien qu'il est toujours difficile et illusoire de vouloir dégager d'une œuvre son fil rouge. Il me semble toutefois que le mot « explosion » est assez caractéristique des films d'Anne Fontaine. On y part en général une situation stable, invitant un parcours de vie tout tracé, et puis survient un événement ou un personnage, et tout est chamboulé. Dans « Comment j'ai tué mon père » en 2001, le retour d'un père disparu fait exploser une famille. Dans « Entre ses mains » en 2005, la rencontre de Laurent renverse la ville Louise. Dans « Perfect Mothers » en 2013, le quatuor de deux mères et des fils est désaccordé par les relations croisées qui s'instaurent. Dans « Les Innocents » en 2016, un couvent tranquille est bouleversé par l'intrusion de soldats russes qui violent les religieuses. Marie-Jeanne, qu'en est-il pour Marvin ou la belle éducation ?
Alors, dans ce dernier film, c'est également le cas. Comme le dit Marvin lui-même, ça parle d'un mauvais départ. Marvin Bijoux, oui, c'est son nom ridicule, est élevé dans une famille rurale d'un petit village des Vosges, dans un milieu extrêmement défavorisé, entre un père qui hurle, éructe et qui n'a d'horizon que les bouteilles de bière qu'il va acheter au supermarché du coin, et une mère indifférente et résignée. Alors, ces gens ne sont pas méchants, mais ils semblent incapables d'amour et d'attention, à tel point que, au début du film, j'ai pensé qu'il était dans une famille d'accueil, tant l'écart était grand entre eux. Alors, le problème de Marvin, c'est qu'il est un être délicat, visiblement peu attiré par la violence ou la virilité, ce qui, dans ce milieu où l'on parle avec mépris des PD, le met particulièrement en porte-à-faux. D'ailleurs, son frère aîné, très violent, s'en prend à lui physiquement en le traitant de tapette. Son drame est qu'il est en plus victime à l'école de harcèlement de la part de grands qui le traitent de petit pédé, lui maquillent les lèvres de force et l'obligent à les caresser avant de lui cracher dessus. Ce sont des scènes d'une très grande violence. Et Marvin va vivre ce drame sans trouver auprès de personne le réconfort nécessaire.
Mais est-ce qu'il va réussir à s'en sortir ?
Alors oui, et c'est grâce à l'art que Marvin va sortir de sa condition et accepter ce qu'il est. Les cours de théâtre qu'il suit grâce à l'aide providentielle, si je puis dire, de la proviseure du lycée qui le prend sous son aile, eh bien, ces cours seront sa lumière. Et progressivement, au contact des rencontres qu'il fera dans son milieu, cet écorché de la vie va s'accepter totalement et devenir véritablement ce qu'il est profondément. Alors, sa véritable renaissance se fera lorsque le professeur de théâtre, Abel, raconte son enfance qui est le calque de la sienne et Marvin, bouleversé, trouve la force de lui dire avant d'éclater en sanglots « Je suis comme vous ». Et elle se fera aussi par l'écriture théâtrale lorsque Marvin écrit et joue sa propre histoire. Je trouve qu'Anne Fontaine nous donne là un film bouleversant, sensible, intelligent, une ode à la différence assumée et à la résilience telle que l'a définie le psychiatre Boris Cyrulnik. Le propos n'est ni lourd ni appuyé, à mon avis, mais d'une grande sobriété, comme l'est d'ailleurs le jeu remarquable de Finnegan Oldfield, qui commence une très belle carrière.
Alors, est-ce que l'on trouve là une construction linéaire décrivant le trajet de Marvin, de l'enfance à l'adulte ?
Non, car la structure du film est complexe et pourrait désarçonner, mais pas comme dans le précédent, pas comme dans le Musée des Merveilles. Et je dois dire que, malgré certaines critiques, que c'est vraiment pour moi, à mes yeux, ce qui fait la force du film. Anne Fontaine, très habilement, travaille sur deux niveaux. Le présent de Marvin, mêlé tantôt de séquences sur son passé lointain de l'enfance qui remonte constamment à son esprit, et sur son passé récent lors de son arrivée à Paris. Alors, ces montages complexes permettent à la réalisatrice de rester au plus près de son personnage en nous montrant ses états d'âme successifs qui passent évidemment de la douleur de l'humiliation, l'incompréhension, la culpabilité, mais aussi la volonté de s'affirmer et d'avancer dans la vie en devenant lui-même. Il faut noter également des cadrages des visages, les gros plans sur les corps et des dialogues précis, intelligents, qui, à mon sens, renforce le propos.
À l'origine de ce film, il y a un roman, non ?
Oui, alors ce film a suscité une polémique à sa sortie. Anne Fontaine s'est inspirée d'un roman d'Édouard Louis, En finir avec Eddie Bellegueule, mais avec son co-scénariste Pierre Trévidy, qui est bien connu, elle s'est sensiblement éloignée du roman qu'elle a en quelque sorte prolongé, au point qu'Édouard Louis n'a pas voulu figurer au générique. Bon, disons que c'est une libre interprétation et qu'on ne peut pas lui reprocher d'avoir exercé sa liberté d'artiste. Mais je suis consciente que ce film peut susciter d'autres critiques que je laisse le soin à mes copains de faire.
Effectivement, Marie-Jeanne, je crois que ce film a quand même suscité pas mal de réserves, voire de critiques. Jacques, est-ce que tu volerais à son secours ?
Ah, moi, je ne vais pas être très critique, en fait. J'ai pensé qu'elle en faisait un petit peu trop dans la caricature de la famille de Marine, parce que dans le genre bouseux, on ne fait pas mieux. Mais en fait, c'est beaucoup plus subtil que ça. Et au fur et à mesure que le film avance, notamment le père, qui est une figure au départ totalement caricaturale, elle devient beaucoup plus nuancée et plus intéressante. Donc, c'est un film qui n'est pas caricatural. Et c'est un film que j'ai trouvé relativement équilibré entre elle montre les difficultés dont part Marvin, et c'est sûr que c'est pas un point de départ extraordinaire pour devenir quelqu'un. Mais elle montre aussi, et de manière très positive, on aime bien quand même les films positifs, qu'on peut y arriver. Et encore plus positif, au fond, comment il y arrive ? Il y arrive Eh bien, à travers la directrice d'école, à travers le professeur de théâtre, donc à travers l'éducation. Alors, un film qui, en plus, dit que l'éducation aide à s'en sortir, je dirais qu'on applaudit déjà. Et en plus, c'est un film qui, je trouve, est bien fait. Les allers-retours, etc., ne sont pas si complexes que ça à dénouer. Les personnages secondaires, moi, je les ai trouvés très bien, très intéressants. Ce qui fait que ça donne une force au film. Donc, non, moi, je suis assez positif sur ce film.
J'ai le sentiment que Dominique ne partage pas tout à fait ce sentiment.
Alors, je partage avec mes collègues le fait que c'est un film aussi de va-et-vient entre l'enfance et puis l'âge adulte de ce jeune homme, et que c'est très réussi. Ce va-et-vient-là n'est pas du tout gênant. Au contraire, il apporte énormément de choses et il montre que, quel que soit l'âge qu'on a, l'enfant qu'on a été vit toujours en nous et vit très profondément. Mais autant j'avais aimé le film précédent d'Anne Fontaine, Les Innocentes, et sa magnifique esthétique, ce couvent dans la neige, dans une symphonie de blanc, de gris et de noir, autant ce film ne m'a accroché ni esthétiquement. J'ai trouvé qu'elle a filmé tout ça platement. J'étais très contente de savoir que c'était dans les Vosges, mais je ne l'ai pas reconnu. Et sur le fond, j'ai trouvé que sur un thème classique quand même, un enfant solitaire, souffrant, rejeté par son milieu et qui rencontre les bonnes personnes au bon moment. Bon, moi j'ai pensé à Billy Elliot, à des films comme ça. Sur ce thème classique, est-ce que ça nécessite vraiment cette description aussi glauque du milieu de départ de ce jeune enfant? On comprend qu'il souffre, on n'a pas besoin de voir son père dans cet état-là, me semble-t-il. Bon, je comprends bien que c'est ce qu'il a vécu, et c'est vrai. Mais est-ce que c'est nécessaire? N'ose pas représenter des gens aussi simples d'une façon dont on n'oserait pas représenter des gens de la bourgeoisie tout aussi moches, mais qu'on ne nous montre pas en pantoufles?
Mais on les montre dans leurs attributs. Charles Berling qui joue donc
un bourgeois n'a pas de pantoufles.
Mais je veux dire qu'il est dans sa Jaguar décapotable en train d'écouter de la musique classique avec ses costumes blancs, etc. Ouais. C'est pareil, c'est aussi caricatural.
Il est aussi caricaturé, même
aussi
peut-être plus.
Aussi caricaturé, oui, que le monsieur, là, Pierre.
Ils sont tous caricaturés, c'est bien ça le problème de ce film. C'est que les personnages sont tellement gros, elle souligne tellement les trucs que ça en devient grotesque. Moi, je trouve que ce père, je ne rejoins pas du tout Jacques, je vois aucune rédemption sur la fin, ce père.
Le
dialogue avec le fils.
Le dialogue avec le fils
à la
fin, et même quand il part, quand il quitte le foyer pour aller au lycée artistique, il y a quelque chose qui passe. Non, je suis pas du tout d'accord là-dessus. Et d'ailleurs, même au départ, je voulais reprendre là sur ce que disait Marie-Jeanne, parce que il est effectivement tabassé par ses copains un petit peu plus âgés que lui. Oui. Mais en même temps, le film montre qu'il est attiré par leur corps. C'est-à-dire qu'il y a un truc très compliqué. Là aussi, on n'est pas dans la caricature. C'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement le tabassage. On est dans un sentiment beaucoup plus ambigu de la part du malheureux bijou. Non, c'est pas. J'écarte le mot caricature parce que je trouve qu'ils sont campés fortement, mais au bénéfice de l'histoire.
Je trouve que c'est carré. Enfin, la réalisation m'a laissé vraiment complètement de côté. Par contre, moi, je sauve ce film pour une raison personnelle, parce que je trouve que finalement, c'est un film qui, de manière très rare, presque sous le document traduit la honte du personnage. Ça se voit en deux fois, lorsque la directrice du collège le ramène et qu'il veut pas, il dit non laisse-moi là, il saute même de voiture tellement il a honte de l'idée que. Et puis également à la fin, quand il retrouve son père qui est en éboueur, alors je crois que c'est très fort pour moi.
C'est pas une critique, au contraire, c'est ce qui sort
le film pour moi. Je trouve que bon, finalement, on dit qu'il se réalise. Moi, je crois qu'il ne se réalise pas, que c'est Martin Bijoux qui devient Martin Clément, mais qu'il y a une tunique de Nessus qu'il ne réussit jamais à enlever. Vous allez vous être scandalisé, mais pour moi, Martin Clément n'existe pas. Il y a une enveloppe creuse qui ne sert qu'à perpétuer Marvin Bijoux.
Ah, non, ah, non,
ça, c'est, pour moi, c'est un film sur le double.
Mais non.
C'est un essentiel, un film sur le double.
Ah oui, ça.
Oui,
ça,
mais... oui, mais on est tous doubles. On a tous voilà. en voilà. nous un reste de l'enfance, qu'elle ait été joyeuse ou qu'elle ait été douloureuse, d'autant plus si elle a été douloureuse, et on le porte en nous, quel que soit notre devenir. On ne peut pas l'oublier. On est tous faits de l'enfance et de l'actuel.
Et puis, enfin, et puis pour le coup, ça aurait été caricatural s'il avait perdu ça. C'est normal, au fond. Il reste attaché à sa famille. Bah, il n'éprouverait pas de honte s'il n'était pas attaché.
Je trouve que ça, justement, ce qui est bien montré dans ce film, c'est cet attachement qui reste.
Et puis, il retourne dans sa famille, malgré tout.
Je voudrais ajouter juste deux choses. Je vous trouve très indulgent pour l'éducation nationale, parce qu'elle ne sauve pas cet enfant. Elle le laisse harceler au collège sans rien.
Elle le sauve, quand même. C'est la proviseure qui l'a sauvé.
Bien, écoutez, on va continuer avec les coups de cœur maintenant, parce qu'on a déjà passé pas mal de temps là-dessus. Dominique, tu voulais nous parler de Au revoir là-haut.
Oui, alors mon coup de cœur, moi, c'est Au revoir là-haut d'Albert Dupontel. Je trouve que c'est une adaptation très réussie du prix Goncourt 2013 de Pierre Lemaitre, qui a lui-même participé au scénario. Les 20 premières minutes, je trouve, sont exceptionnelles. Les obus sifflent et tombent au plus près du spectateur pendant une scène de combat hallucinante. Nous sommes dans les tranchées, au plus près des soldats et de l'horreur qu'ils subissent. Le film dresse ensuite un tableau de l'après-guerre passionnant à travers un foisonnement de personnages très bien dessinés et merveilleusement interprétés. Un industriel, Nils Arestrup, tient dans sa main les politiques et tout l'enrichit, la guerre comme l'après-guerre. Son fils, artiste et gueule cassée, Nahuel Pérez Biscayart, ne veut plus voir son père et survit, épaulé par son camarade de combat, Albert Dupontel, en dessinant et vendant des monuments aux morts qui ne seront jamais construits. Belle escroquerie. Son gendre, Laurent Lafitte, ancien officier et véritable crapule, trafique les corps et les cercueils des soldats morts au combat. Et il y a plein d'autres personnages d'une incroyable variété. Si le roman picaresque de Pierre Lemaitre est fidèlement adapté à quelques détails près, Albert Dupontel est bien présent. Et à travers ce vrai mélodrame, nous dit encore et toujours sa tendresse pour les marginaux, sa haine du patriotisme zélé et du cynisme des puissants. On en a plein les yeux, plein le cœur, c'est coloré, épique, poétique, brutal, tendre, on ne s'ennuie pas une seconde. Le réalisateur, ses acteurs et ses équipes sont en grande forme.
Ben heureusement qu'on ne discute pas.
Eh bien, merci. Jacques, dis-le pour le western, parce que sur celui-là, sur le revoir là, on n'est pas fini.
Oui, alors, Western est un film de la réalisatrice allemande de Valeska Grisbar. Et comme son nom ne l'indique pas, le film se passe en Bulgarie et met en scène ce que l'on appelle aujourd'hui des travailleurs détachés. Mais ici, ce sont en fait des Allemands qui viennent construire un barrage. C'est une bande de baroudeurs qui ont traîné leurs guêtres dans des guerres ou des chantiers en Asie ou en Afrique avant d'échouer dans ce trou perdu de la campagne bulgare où ils sont bloqués car le chantier n'avance pas. Alors le sujet du film est la relation qui se noue entre eux et les habitants du village voisin. Et comme dans un western, d'où sans doute le titre du film, les villageois les voient arriver un peu comme un groupe d'étrangers dont on ne sait rien et qui sont un peu menaçants. Les Allemands d'ailleurs se comportent en pays conquis, déploient leurs drapeaux, draguent brutalement les filles du village, ce qui crée vite un climat de tension dans un pays où le souvenir de l'occupation allemande est encore très vivace. Un seul de ces Allemands, Meinhardt, un ancien de la Légion, cherche à nouer des contacts avec les villageois. Peu à peu, ce cow-boy solitaire, qui est remarquablement interprété par Meinhard Neumann, va préférer la compagnie des villageois, même si évidemment la barrière de la langue rend les échanges très difficiles, à celle de ses abrutis de compatriotes. Alors le film reprend quelques codes du western, comme les rues vides ou les chevauchées dans la campagne, mais il se présente surtout comme une chronique assez lente et réaliste du quotidien, faite de petits événements, mais où l'atmosphère tendue fait craindre à tout instant le dérapage et le drame. Et c'est ce mélange de tension et de vie ordinaire qui fait le charme de ce film assez original.
Oui, ben merci pour ce western. Marie-Jeanne, toi, c'est autre chose.
Je voudrais vous présenter un documentaire sur la vie assez extraordinaire d'une chanteuse mexicaine, Chavela Vargas, qui est née en 19 et morte en 2012. et qui fut une icône musicale, chanteuse de rancheras, très célèbre au Mexique et en Espagne, mais assez peu connue en France. Toutefois, elle n'a pas été que cela. Ce fut une femme avec une personnalité brillante, libre d'esprit et de mœurs, portant pantalon et pistolet, fumant le cigare dans une société tellement machiste et conservatrice, surtout à l'époque, et qu'il est peut-être demeuré encore. Une femme flamboyante, à la personnalité complexe, qui a assumé avec courage son homosexualité, qui a accumulé les conquêtes de femmes célèbres, qui a brûlé sa vie dans la tequila et les sorties. Un personnage romanesque hors norme, au destin unique, comme il en existe peu de cette trempe dans cette génération, et surtout dans cette région du monde. Et je dois dire qu'il fallait la sensibilité de deux femmes pour nous montrer, pour nous donner ce magnifique documentaire qui mélange des interviews, des images d'archives sur cette chanteuse, c'est mon couplet féministe, sur cette chanteuse fascinante qui, au fil du film, se révèle terriblement attachante et émouvante. Elle a beaucoup chanté avec cette voix chaude et profonde, l'amour malheureux, la solitude, le désir, le manque de l'autre, Les blessures de l'âme, chanson composée par le célèbre chanteur et compositeur de rancheras José Alfredo Jiménez. Après une longue traversée du désert, elle a été tirée de l'oubli par Pedro Almodovar, très admiratif, qui a donné un renouveau international à sa carrière, et à 93 ans, il faut croire que l'alcool conserve. Sur une chaise roulante, elle a fait son dernier concert dédié à Garcia Lorca à Madrid. Et son vœu était de mourir en chantant, mais la mort ne lui a pas donné cette joie et l'a appelée peu après. Un film à ne pas manquer.
Oh, on l'a bien compris de la part de notre féministe de service. Mais moi, je voudrais parler tout à fait différent. Je voudrais parler d'un documentaire. Un documentaire que j'ai trouvé infiniment touchant, c'est Carré 35. Alors, Erika Avaca, il parle d'une image manquante dans le tableau de sa famille. Cette image manquante, c'est celle d'une sœur aînée, née en 1954, et dont le souvenir était étouffé, effacé, nié, comme si elle n'avait jamais existé. Pas de photos, pas de traces, pas la moindre illusion à son existence pendant toute la jeunesse de l'auteur, rien. Sinon le sentiment confus d'un manque, les passages en creux d'une tristesse incompréhensible, qui se fait particulièrement aiguë un jour de 2010 où il est en train de visiter un cimetière d'enfants. Il interroge alors son père, puis plus difficilement sa mère, se lance dans une quête approfondie. Peu à peu, des signes apparaissent sur le tableau blanc du déni et reconstruisent l'histoire. Oui, cette petite fille a bien existé. Elle est morte à 3 ans d'une malformation cardiaque. Elle était trisomique. C'est le récit de cette quête bouleversante à travers le passé qu'Erika Avaca nous livre dans ce carré 35. Titre qui reprend le nom du quartier de cimetière à Casablanca où se trouve la tombe de Christine. Tombe à laquelle manque précisément la photo de la défunte, dans le petit réceptacle creusé pour les déposer. Au-delà de cette poignante plongée dans le dédale des décombres ensevelis, la force de son film est de relier la tragédie de cet enfant à l'histoire de ses parents, à son déracinement et ses exils successifs qui les ont conduits d'Espagne au Maroc puis en France. La petite histoire rejoint alors la grande dans le parallèle qu'établit Erika Avaca entre le déni familial et la volonté nationale de refouler le passé colonial en Algérie et au Maroc. Les individus comme les peuples victimes du même fantastique bouleversement, n'ayant plus qu'un même objectif de survie, faire table rase du malheur et repartir autrement. Bien, je crois qu'il est venu le temps de nous quitter. Merci à Dominique, merci à Marie-Jeanne, merci à Jacques qui ont animé cette émission, merci à Arnaud qui en a assuré la réalisation technique, et merci à tous ceux qui l'ont écouté et que nous invitons à nous rejoindre dans notre prochaine émission Chant contre Chant, qui aura lieu dans un mois.